Mademoiselle Deray, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Alice Lavigne et Quentin Albeau.
Vous êtes beau, vous êtes prêts ?
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial d'Intégralement pas filmé. Et oui, votre hors-série préférée. Mais cette fois-ci, on a décidé d'innover, pas d'IPF gag pour cette saison, on sait que ça vous manque à tous et encore plus à nous, mais on veut pas tomber dans la routine, on veut être imprévisible. Du coup, on s'est dit, les gens nous ont écouté parler pendant 10 épisodes, pendant 10 semaines, donc pourquoi pas laisser la parole à quelqu'un d'autre. Et nous avons donc décidé de faire une interview, mais pas que. Nous avons plus ou moins laissé les commandes de notre épisode à Farah, que vous allez entendre très prochainement. Comme vous allez le voir, Farah fait énormément de projets. C'est quelqu'un de très très intéressant et d'assez incroyable, je pense on peut le dire, Quentin.
Oui, clairement. Elle a sacrément du pain sur la planche et elle a énormément de talent, surtout.
Et donc je pense que ça devrait tous vous intéresser, ce qu'elle a à nous dire, à tous, puisque nous, quand on l'a fait... C'était très très chouette et on s'est dit, on est dans IPF. Les gens nous entendent toutes les semaines parler de notre film de la semaine, de notre playlist de la semaine, de notre reco de la semaine. Donc on s'est dit, pourquoi pas demander à Farah quelle serait sa toile, quelle serait sa playlist. On l'a libérée de la reco.
Parce que la reco, c'est elle au final.
En fait.
La boucle est bouclée. Hein.
Un nouveau petit format. On espère que ça va vous plaire. Parce que nous, ça nous plaît bien. Et on espère en faire un format récurrent. Donc voilà. Bonne écoute à tous. Et je nous laisse aux mains de Farah. À vous les studios.
Alors comme on vous l'a dit en introduction, cet épisode est très spécial puisqu'on est en compagnie, non pas comme à l'accoutumée, mais contre l'accoutumée, de Farah. Comment ça va Farah, pour commencer ?
Écoute, ça va et toi ?
Bah moi ça va très bien. Alice, comment on va ?
Ça va très bien, confiné chez soi, mais ça va.
Bah ouais, du coup. Oui, parce qu'on enregistre cet épisode au moment du confinement.
Ouais, en plein confinement.
Jour d'enregistrement 21 mars. Ça fait un peu moins d'une semaine qu'on est en confinement. On n'a pas encore perdu la tête, ça vient petit à petit.
Franchement, tu t'avances là, parce que moi je deviens folle.
Ça va pas tarder.
Farah est déjà folle, c'est très dommage.
Ouais, ça y est.
Et puis il y a moyen que quand on diffusera cet épisode, le confinement sera toujours en place, donc bon. Au moins, on est raccord.
Ouais, c'est en même temps bien, en même temps très dommage. Je sais pas par où le prendre.
Mais du coup, c'est cool parce que ça occupe vos auditeurs.
Effectivement. Du coup, tous nos épisodes à partir de maintenant feront 3 heures. 3 heures, je dis bien 3 heures, pour occuper toutes vos matinées.
C'est très très faux. Tant mieux pour vous d'ailleurs.
Du coup, je pense que pour commencer, ce qui serait vraiment pas mal, c'est que tu te présentes parce que tout le monde qui nous écoute ne te connaît peut-être pas.
Écoute, je m'appelle Farah, j'ai 22 ans. Je suis étudiante et à côté de ça, je réalise pas mal de petits projets vidéo qui abordent plutôt la question de l'identité.
Et donc, t'as créé deux projets l'année dernière, c'est Girlhood et c'est Double ID, comment tu le prononces ?
Ouais, franchement, tu peux lui donner tous les noms, Double ID, Double ID, Double ID, Double Identité, comme tu veux.
Est-ce que, du coup, tu peux nous les présenter et nous expliquer un peu pourquoi tu les as créés ?
Ouais, alors, le premier, c'est Girlhood. Donc, Girlhood, c'est un travail sur le thème de l'identité féminine. Mm-hmm. En fait, c'est une série qui est divisée en deux saisons. Et j'ai filmé une trentaine de personnes, je crois 25 femmes et 5 mecs entre 20 et 24 ans. Mm-hmm. Dans la première saison, en fait, on aborde vraiment l'identité féminine qui peut concerner toutes les femmes. Donc, en gros, c'est le sexisme en réalité et l'éducation qu'on peut recevoir en tant que fille et aussi de la construction qu'on a eue quand on est devenue une femme, quoi. Pendant notre adolescence. Ouais. Et j'ai voulu vraiment intégrer les garçons à cette saison. Parce que, en fait, ce qui est venu directement, c'était le poids des standards de beauté, en fait. On en parlait beaucoup et j'avais trop besoin de savoir comment les garçons le vivaient. Du coup, je suis allée leur demander. Je leur ai posé la question.
Il n'y a pas plus simple.
Donc, voilà, il y a un épisode sur les mecs. Et de la deuxième saison, qui n'est pas sortie encore, qu'on va sortir à partir du 1er avril, j'ai filmé, en fait, des femmes qui sont issues des minorités, entre guillemets. Genre, en gros, ce que c'est qu'être une femme noire, ce que c'est qu'être une femme maghrébine, ce que c'est qu'être une femme indienne, une femme qui porte le voile aussi. Donc en fait c'est pas du tout toutes les minorités, c'est plutôt celles qui m'entourent et avec qui je me sentais à l'aise. Enfin c'est pas représentatif non plus de toutes les femmes, évidemment, et c'est hyper important en fait parce que en parlant avec les filles je me suis rendu compte que pour ces filles là elles parlent jamais que du fait d'être une femme, parce qu'on n'est jamais qu'une femme en fait. Et genre le fait d'être une femme noire par exemple, bah, tu dois faire face dans ta vie à la fois au sexisme et à la fois au racisme en fait. Et les deux, ils sont hyper liés. Ouais. Pareil, tu vois, les femmes maghrébines, le mot burette, c'est un mot qui existe que pour elles.
Ouais. Ouais, ouais.
Et ça représente bien le fait que, tu sais, c'est à la fois un mot hyper sexiste, et en vrai, quand tu regardes l'historique du mot, c'est raciste aussi. Mm. Et du coup, quand tu travailles sur ça, tu te rends compte que, ouais, t'es jamais qu'une femme. Et je pense que c'était important de mettre des mots dessus. C'est venu directement dans les conversations. La deuxième saison, elle est née de là.
Mm. Je pense que ce genre de série documentaire, non seulement c'est important d'en parler, mais c'est aussi super important de pouvoir écouter.
Mmh. Ouais, c'est exactement ça l'idée.
Oui. Mon exemple, en tant qu'homme blanc qui ne subit pas le racisme ni le sexisme, j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant et du coup j'ai réussi à comprendre en quoi j'étais quand même impliqué dans ce truc-là.
Ouais,
et carrément. Je trouve que c'est hyper intéressant de dire aux gens que le public visé n'est pas seulement les femmes et les femmes issues des minorités, mais aussi les hommes et tout le monde en fait. Tout âge, toute ethnie, tout sexe, tout genre, tu vois, genre tout le monde est impliqué dans ces trucs-là.
Mmh. Ouais, de ouf. Bah, à partir du moment où les relations sociales elles impliquent tout le monde, tu vois, je trouve que c'est grave important d'écouter tout le monde aussi.
Ouais. Ouais.
Ça fait peut-être un peu hippie, mais...
Tout le monde doit s'aimer, mon pote.
Pas s'aimer, mais juste s'écouter, en fait.
Ouais.
Sur la notion d'identité, ça va me faire bondir par rapport à Double ID, du coup, le deuxième projet.
Super transition.
Genre, en gros, Double ID, hein, j'ai filmé plein de jeunes qui ont, en fait, une double culture.
Mm.
Et c'était trop intéressant, parce qu'en fait, dans une société, on veut qu'on s'assimile. Enfin, en fait, c'est quoi l'identité française, quoi?
Ouais.
Genre, elle est multiple. Les manières d'être français, elles sont plurielles, il y en a plein. Et pourtant, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de l'être, quoi. Et on est vraiment dans une société où il faut s'assimiler, et faut pas trop parler en fait, parce que plus tu parles, plus on... Enfin, moi, on m'a souvent dit, ouais, mais si je dis ça, on va penser que je me victimise. Mm. Et c'est triste. Genre, à chaque fois, il y a des personnes que je filmais ou quoi, c'est grave, des potes, on s'entend super bien, il y a des discussions qu'on a tout le temps. Mais au moment où tu sors la caméra, non, on va penser que je me victimise, je peux pas le dire.
Ouais.
Et c'est ça en fait, je pense que c'est vraiment ce truc-là que je voulais un peu tuer, parce que c'est important de s'écouter, que les autres se rendent compte aussi que bah, ça en fait, c'est des discussions qu'on peut avoir tout le temps ensemble, et pourtant, on va grave. Ça, on va jamais en parler,
ouais,
quoi.
Oui, parce que comme ça, tu leur donnes une plateforme et ça permet de créer une représentation pour des gens dont on n'entend pas parler dans les médias de masse et tout ça.
Ouais, de ouf. Mais en fait, moi, je sais que ces projets-là, en fait, c'est des projets que j'aurais trop voulu voir au collège ou au lycée. Genre, je me posais trop de questions, c'était un délire. Genre, déjà, dans la construction de moi en tant que femme, et ça, je pense que toutes les filles, elles l'ont vécu. Enfin, c'est quoi la féminité? Enfin, les standards de beauté, ils jouent vachement sur nous. Mm. C'est des poids, en fait. Et moi, du coup, enfin, je suis l'aînée, donc j'ai pas de grande sœur. Et en fait, dans Girlhood, bah, pour moi, c'est des grandes sœurs qui parlent un peu.
Ouais.
Genre, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que moi, j'ai surmonté ça? Ouais, on m'a fait des remarques et tout. Mais en fait, et c'est même pas, ça a été dur pour moi. C'est juste comment moi j'y suis arrivée en fait.
Ouais.
Aujourd'hui, comment je me sens. Il y a des filles en plus qui disent que bah écoute, aujourd'hui je m'en sors toujours pas en fait, c'est encore des complexes pour moi ou quoi. Mais tu sais, c'est des discussions entre potes, genre il y a vraiment une atmosphère de bienveillance où personne se juge et tout. Et c'est ça, Girlhood pour moi, c'est ouais, c'est la jeunesse féminine et c'est aussi un espace un peu de sororité. Ça, on est entre nous et on parle.
Ouais.
Et venez nous écouter quoi, c'est juste ça. C'est même pas venez nous écouter en fait, c'est genre.
Ouais.
C'est ça que le spectateur il est vraiment presque le point central. Toutes les personnes que j'ai filmées et même dans Double ID, la personne en fait elle est face à la caméra. Et ça, c'était grave réfléchi pour moi parce que je voulais vraiment que la personne, elle se sente dans la discussion.
Mmh.
Et genre, pour moi, la personne qui regarde le truc, ouais, c'est une partie de la discussion, en tout cas.
T'es assis à table avec eux et
ouais, c'est exactement
on t'incite
ça.
À réfléchir toi aussi à ça parce que justement, tu te sens impliqué. Et du coup, ça incite à la réflexion et c'est vraiment stylé.
Et du coup, même en fait, un peu moins dans la saison 1, je crois, mais en tout cas, dans la saison 2, il y en a pas mal. À chaque fois que moi, je filme des personnes, genre, on est plusieurs. Genre, je fais venir plusieurs personnes, genre, la personne, elle vient avec ses potes ou quoi. Et du coup, ça libère vraiment la parole parce que, t'sais, c'est pas genre, tu sais, il y a un espèce de format interview où tu viens, je te pose des questions et je prends tes réponses.
Ouais.
Genre, c'est vraiment une discussion que je filme en fait.
Mm.
Et genre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé certaines réactions et j'ai juste mis les sous-titres. Et du coup, ce qui fait que bah, le spectateur, il peut voir ça en fait. Et il voit les réactions et même lui, il réagit en fait au final.
Oui, justement, ça nous amène à notre deuxième question. C'est en fait, comment est-ce que tu tournes tes interviews? Est-ce que c'est toi qui fais le montage? Et comment est-ce que tu penses au sujet que tu abordes? Comment tu briefes les personnes à qui tu parles? Un peu le behind the scenes de tes projets.
Ouais.
On veut tout savoir.
Ouais. Du coup, dans l'ordre chronologique, je dirais que dès du projet, bah, elle me vient au fur et à mesure un peu genre en mode... Là, j'ai trois projets en vrai, genre Girlhood, Double ID et Récits d'Algérie, où je travaille sur les mémoires de la guerre d'Algérie.
Mm-hmm.
Et ces trucs-là, c'est des trucs que je cogite dessus. En fait, la notion d'identité, genre, je me suis posé tellement de questions. Ça fait grave la fille torturée, mais pas du tout, hein, j'avais une vie normale. Mais juste...
C'est le confinement, ça.
Mais en fait... Mais en fait, je pense que c'est important que je me livre aussi pour qu'on comprenne un peu à quoi dans ma tête. Sinon, on va pas comprendre. C'est grave fouillé.
Nous sommes toutes
oui. En fait, genre, je suis une fille. En fait, j'ai deux cultures différentes. Genre, j'ai des origines algériennes et albanaises.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai grandi dans cet univers multiculturel. Et en même temps, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais dans un collège lycée privé catholique. En tout le contraire de chez moi, quoi. Et le truc, c'est que je me suis énormément assimilée. Genre, en fait, je reniais totalement ce que j'étais. Genre, je le cachais vraiment. Et la première chose que je cachais, c'était ma religion, en fait. Genre, je voulais pas dire aux gens que j'étais musulmane. Et ça, c'est révélateur de beaucoup de choses, je pense. En tout cas, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, c'est comme si tu portais un masque quand t'es hors de chez toi, quoi. Et c'est grave triste. Et j'en ai pris conscience que après le lycée, ouais, à partir de la fac, où j'ai commencé à plus assumer qui j'étais et dans mon entièreté, en fait. Parce qu'en fait, si je disais qui j'étais, bon, on me posait tout le temps des questions reloues. Genre, c'est un truc de ouf. Et les gens, ils voulaient m'apprendre ma religion. Ils avaient plein de clichés et de fantasmes sur l'Algérie. C'était un truc de ouf. Pas trop l'Albanie, puisque à l'époque, ils savaient pas trop ce que c'était. Ils pensaient que c'était le Liban. Non, mais c'est ça. Genre, ouais, tu vas aller en Algérie, tu vas manger du couscous et tout. Enfin, je passais ma vie à faire ça, quoi. Et c'est juste ce truc où, en fait, tu crois que t'es tout seul, genre. Tu crois qu'il y a que toi qui vis ça, et quand tu parles avec les gens, tu te rends compte qu'en fait, on a tous le même vécu. Genre, à partir du moment où t'as plusieurs cultures, bah, on est tous passés par là. En fonction du milieu dans lequel tu vis aussi, ça c'est sûr. Et du coup, de là, sont nés des projets, en fait. Genre, ça m'est vraiment comme ça. Genre, je me dis, purée, mais j'aurais trop eu besoin de voir ce projet-là à l'âge de 15 ans. Genre, si j'avais vu Double ID à 15 ans, je pense que je me serais dit, bah, tranquille, en fait, c'est normal. Et je suis contente, parce qu'il y a eu plein de retours, en fait. En mode, justement, genre, c'est la première fois que j'entends des jeunes parler sur leur double culture, et ça me fait du bien. Même les personnes que je filme, la plus part et tout, en fait, sinon elles viendraient pas, ça leur fait du bien. Genre, les discussions elles font trop de bien, ça fait trop plaisir de, enfin, tu sais, de parler et pas de sentir
ouais, personne te juge.
Ouais, personne te juge, et on va jamais dire que tu te victimises.
Ouais,
parce que ça, c'est vraiment, c'est un réel malaise, en fait, on s'en rend même pas compte.
Ouais.
Et j'avais pas les clés de compréhension, genre vraiment pas. Genre, je comprenais pas qu'en fait, dans le regard des gens, et bah j'étais la musulmane. Genre, pour certains, c'est réel. Genre, quand je repense aux interactions qu'on pouvait avoir, ouais, j'étais que une fille musulmane, quoi. Genre, j'étais la musulmane qu'on connaît. Le totem, vraiment ça.
Le fameux pote musulman, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça en fait. Mais des bails de ouf, hein. Mais toi, pourquoi tu te voiles pas du coup? Parce qu'à la télé, je vois que les femmes musulmanes, elles sont voilées. Toi, tes parents, ils t'obligent pas à mettre le voile. Enfin, ça, c'est des trucs, c'est... tu rentres direct dans mon intimité. J'ai... Enfin,
oui. Bref, qui es-tu? De ouf du sujet. Présente-toi mais... déjà.
En fait, c'est ça, tu vois, genre en mode, on me demande pas c'est quoi mes passions, quoi. C'est genre, vas-y, parle-moi de ta religion.
Ouais.
Bah non. Et du coup, je l'ai caché pendant très longtemps parce qu'on m'a fait plein de remarques dans ce milieu-là où en fait, il côtoyait pas du tout d'arabes. Et du coup, ouais, ça a été un petit malaise. J'ai mis beaucoup de temps à mettre les mots dessus.
Du coup, c'est quoi qui t'a fait dire je vais prendre ma caméra et je vais aller faire ce truc-là? Je vais aller donner aux gens ce que moi j'ai pas eu. Comment tu t'as eu ce processus de prise de décision?
Bah après, ça joue avec les affinités, les passions et tout. Genre, moi, je sais que je fais de la vidéo depuis le collège, lycée, mais genre, je filme que mes vidéos, je filme que mes moments de vacances ou tu vois, la famille et tout. Et après, je faisais des montages. Et j'ai toujours kiffé ça, et là je sais pas, je me suis dit j'ai envie de faire un vrai truc. Ah si, le déclic je l'ai eu, si c'est bon je me souviens. Je l'ai eu...
Voilà, j'attendais cette réponse là, je savais qu'il y avait un vrai déclic.
Non, le vrai déclic en fait, ouais t'as raison, c'était pendant mon Erasmus à Madrid.
Ah, encore plus de culture pour Farah. Qui es-tu?
En fait ouais, donc j'ai fait un Erasmus en 3ème année, et je suis partie à Madrid pendant 6 mois, et là-bas j'étais... En fait, en réalité j'ai fait mon Erasmus que pour sortir des cours, genre enfin arrêter la double licence et
oui,
faire
un... Je connais.
Voilà, t'inquiète comme pas. Tout le monde. Et le truc, c'est que j'ai été grave choquée parce que c'était trop bien. Et moi, je m'en foutais que ce soit bien ou pas. Je voulais juste me casser. Et donc, j'ai rencontré des gens qui avaient plein de nationalités différentes. Et je trouvais ça fou. Genre, vraiment, j'étais stimulée constamment. Et donc, j'ai trop voulu garder un souvenir de tout ça. Et comme j'ai toujours filmé mes vacances, comme j'ai toujours filmé ma famille et tout, je me suis dit, bah, eux aussi, je vais les filmer. Et de là, j'ai pris ma caméra, je suis allée acheter un micro. Enfin, j'enregistre toujours avec ce micro, qui est un peu pourri. Mais il fait le taf. Je suis allée filmer, j'aurais posé plein de questions. Et d'ailleurs, les vidéos, elles n'étaient pas vraiment sorties. J'ai juste sorti une vidéo sur l'amour. Je leur demandais c'est quoi l'amour.
Il me semblait avoir vu une vidéo.
Ouais, voilà. Et en fait, ça m'intéresse, parler de l'amour avec les jeunes. Mais en fait, je sais pas si vous avez vu le documentaire Human de Yann Arthus-Bertrand.
Non, moi non.
En fait, c'est... Donc Yann Arthus-Bertrand, il allait filmer genre 2000 personnes à travers le monde, et toutes de nationalités différentes. Il leur pose des questions de ouf, mais c'est des questions genre graves, tu sais, qui sont inhérentes à chaque humain un peu. Genre par exemple, bah justement, c'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi la famille? La notion de l'argent. Et du coup, tu sais, t'as par exemple une riche héritière russe qui va te parler de l'argent, et t'as une femme qui travaille pour l'industrie textile au Bangladesh qui va te parler de la notion d'argent, et ça n'a rien à voir, tu vois. Moi, c'est ce truc-là, il me parle encore. Enfin, c'est incroyable. Genre, je connais tous les témoignages par cœur tellement je les ai vus et tellement je trouve ça ouf. Et en vrai, quand j'ai fait mon petit projet là à Madrid toute seule, bah, je me prenais pour Yann Arthus-Bertrand.
je suis Yann Arthus-Bertrand.
Je faisais grave des questions de ouf et tout. Genre, j'avais fait ma petite liste de questions de malade. Et en vrai, en fait, ça a été un déclic. Depuis Madrid, j'ai jamais arrêté de filmer les gens. Et du coup, les projets après, ils sont un peu tout seuls. En fait, en vrai, c'était aussi des discussions qu'on avait. Genre, de là, par exemple, il y a Double ID, il est né de Girlhood en fait.
Ouais.
Avec Girlhood, bah, à chaque fois qu'on parlait du fait d'être une femme et tout, bah, on parlait de ce qu'on avait vécu au collège, et forcément, ça allait avec nos origines. Enfin, par rapport à nos origines. Et du coup, bah, de là, j'avais de la matière pour un autre projet. Et du coup, c'était de Blighty.
Ouais, c'est sûr. Mmh. Et du coup, là, t'as intégré les garçons en plus.
Ouais, là, obligé. Ça concerne tout le monde.
Non, mais c'est stylé de tuer la preuve vivante que tu peux faire des trucs stylés juste sur une idée où tu vois Yann Arthus Bertrand, tu te dis je vais faire pareil à mon échelle et ça va être stylé quand même. C'est beau.
Ouais,
je trouve que c'est un très beau message.
Ouais, en fait, franchement, quand tu t'en donnes le temps et franchement, avec des moyens. Enfin, en fait, moi, j'ai ma caméra, c'est une caméra que mon père il m'avait offerte au lycée. Mon micro, il a coûté 10€ à Madrid. Après, enfin, je veux dire, tu sais, ouais, quand t'as le temps et que tu t'en donnes un peu les moyens, avec la débrouille, tu peux tout faire.
Et puis d'ailleurs, il faut quand même le souligner. T'as gagné un prix à l'UVSQ pour Girlhood.
La consécration, voilà. La consécration pour Farah.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'UVSQ, c'est l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est déroulée la compétition et tout ça?
Ouais, alors ouais, du coup, j'ai gagné le premier prix jeune talent de la catégorie solidarité de l'UVSQ.
Bravo.
En gros, merci.
Là, on insérera des applaudissements.
Et donc, en gros... Bah juste j'ai candidaté en ligne, genre j'ai envoyé projet, j'ai détaillé un peu leur fiche candidature là. Puis après ils m'ont appelé pour me dire que j'étais nominée, sauf que moi j'étais en partiel, j'avais pas envie d'y aller, je suis nominée que je gagne pas.
Excusez-moi votre prix de merde, vous le gardez s'il vous plaît, j'ai d'autres choses à faire.
Et en fait la meuf elle a insisté et tout, et elle a craqué en me disant si faut que vous veniez parce que vous avez le prix. Et j'ai fait ok, bah là j'y vais, tu vois.
Ah bah là c'est différent ma grande.
Du coup j'y suis allée, j'étais grave contente, genre je suis rentrée et tout, c'était cool. Et genre ça m'a fait plaisir dans le sens où bah, ça y est, j'ai un petit côté un peu plus sérieux quoi. Mm. C'est pas juste tu fais des vidéos amateurs, genre peut-être tu veux gratter les thunes de la fac, ça fait plaisir. Je rigole. Mais en vrai ouais, ça fait toujours plaisir hein, de gagner un prix. Puis en plus bah du coup par rapport à ce prix là, après j'ai pu exposer à la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines malgré quelques galères.
Est-ce que tu voudrais détailler ces galères pour nous?
Quelles sont ces galères?
Non, en fait, ouais, c'était un peu galère parce que... alors, ils ont soutenu à fond le projet. Vraiment, Girlhood, ça leur parle et tout. Et ils sont hyper contents qu'une de leurs étudiantes fasse un tel projet. Par contre, donner la parole à des femmes qui portent le voile dans la saison 2, bah, ça les a grave dérangées. Mm. Genre, ouais. Donc c'était limite, bah cet épisode-là, on va pas le diffuser, quoi. Et genre, en gros, l'exposition, pour expliquer un peu comment elle se déroulait, c'était genre, on projetait tous les épisodes sur la télé, enfin sur une télé dans la bibliothèque, et à côté, je mettais plein de petites affiches avec tous les portraits des étudiantes. Mmh. Parce que toutes les meufs que j'ai filmées sont étudiantes. Mmh.
Tout à l'UVSQ?
Non, pas tout à l'UVSQ, mais une grande majorité. Okay. Et en plus, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à la bille, genre en mode on se croisait et à chaque fois on rigolait et tout. Et j'étais là, vas-y, viens, je te filme. Genre, ça s'est passé.
Attends,
un peu comme
ma
ça.
Caméra.
Ouais. C'était grave ça. Hein. Genre en mode toi, j'ai envie d'être pote avec toi, viens, je te filme.
Comme en maternelle. Tu te crois, tu vas être mon pote.
C'était vraiment
allez,
ça.
Banco.
Et en fait, ouais, moi j'ai été hyper surprise cette attitude parce que bah il y a plein d'étudiantes qui portent un voile à la fac. Mm. Et donc pourquoi est-ce que elles auraient pas le droit de s'exprimer, je comprends pas. C'était un peu surprenant.
Ouais. Bah surtout que c'est un épisode hyper fort, tu vois, genre s'il y avait genre une apogée de la saison, tu vois, ce serait ça.
En gros, dans la saison 2, je crois qu'il y a 7 ou 8 épisodes et sur tous ces épisodes, bah il y en a 2 sur les femmes voilées. Et en fait, j'ai fait exprès parce que on leur donne tellement pas la parole.
Ouais.
Même à côté de ça, on les écoute tellement pas que pour moi, c'était important que ces femmes-là, on leur donne plus de paroles, au moins sur un petit projet qui est Girlhood, quoi. Mm. Et donc, c'est symbolique un peu, le fait qu'elles aient plus de temps de parole que les autres. Et ça, justement, tu comprends un peu l'utilité du projet quand t'es face à des réactions pareilles,
ouais.
Quoi. Genre, on m'a directement dit, ah, mais là, vous faites l'apologie de la religion. Alors que, genre, je filme des femmes, c'est tout.
Oui.
C'est tout ce que j'ai fait, genre.
Surtout que faire l'apologie, faudrait que tu parles dans le truc déjà. Faudrait que tu prennes parti. Ouais. Là, c'est vraiment juste, je donne.
C'est exactement ça.
Une scène à ces femmes-là, et après, c'est elles qui font le projet.
Mais c'est vraiment ça, et je trouve ça hyper violent de me dire que bon, au final, le projet est passé et j'ai pu exposer tranquillement. Donc ça, c'est tranquille.
Oui, donc on salue l'UVSQ pour, pour avoir pris la bonne décision. Hein.
Mais en fait, tu sais qu'ils m'ont laissé que parce que j'ai eu un prix.
Ouais.
Genre
ouais.
En mode, ils m'ont dit, bon bah si elle a eu un prix, on peut rien dire.
Ouais, bah en même temps, c'est hyper contre-pédalé que de dire, on t'offre le prix, par contre ton projet, un peu touchy, tu vois.
Ouais, grave. Après, en fait, le truc, c'est que ces deux pôles-là n'ont rien à voir, tu vois.
Mm.
Genre le prix, okay. Ça dépendait d'un jury qui est basé à Versailles. Et l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, enfin la BU en tout cas, elle est côté Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux.
Ouais, ok, je comprends.
Et donc ces femmes-là, déboussolées quoi, mais vraiment dépitées. Hein. Genre en mode, ouais. Non mais vous comprenez pas, Farah, la notion de la laïcité, mais attendez, je vais pas vous l'expliquer, vous êtes juriste.
Ouais.
Genre ça, enfin je sais pas, ça fait, franchement ça fait mal au cœur quoi. Mais du coup je me dis ok, en fait c'est nécessaire,
ouais.
un tel projet ouais. Est nécessaire quoi, vraiment.
Ouais, ça donne encore plus envie de continuer genre.
Bah, sur le coup, en fait, ce qui est triste, c'est que du coup, ça m'a tellement saoulée qu'en fait, je savais même plus pourquoi je faisais ça.
Mm.
tellement l'exposition, c'était trop de... En fait, j'y mettais trop du mien pour rien, quoi. Genre en mode, en face de moi, à chaque fois, on me disait « Ouais, faut qu'on vérifie la vidéo, mais ils visionnaient pas la vidéo. » Genre, ils me faisaient faire plein de trucs et je comprenais pas pourquoi. Et d'ailleurs, l'exposition, à la base, elle était censée être dans le hall, là où il y a beaucoup de passages, et au final, ils l'ont décalée. Mm. Elle est même pas dans le hall, tu
ils
vois.
L'ont mis où?
Ils l'ont mis dans un nouvel espace, là. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le cube.
Ah là où personne va, là.
Ouais, ils l'ont mis là-bas. Après, on a fait un coin grave sympa, donc c'est hyper cool, tu vois.
Ouais.
Mais le truc, c'est que moi, par exemple, quand je vais à la BU, je vais pas directement au cube. Genre, si je sais pas qu'il y a un truc, tu vois. Mm. Donc c'est cool, ouais, parce qu'on a mis des affiches à l'entrée et tout pour le dire, mais c'est pas prévu comme ça, à la base.
Ouais.
Mm. Je l'ai fait comprendre, ça leur a pas plu. Mais va comprendre ce qui leur plaît. Donc ouais, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, ça m'a grave affectée dans le sens où j'ai carrément oublié pourquoi je faisais ça. Et le truc, c'est qu'on a fait une projection en exclusivité de la saison 2 avec le média qui le distribue, donc Vraie Meuf.
Ouais.
On a organisé une projection à Paris et ça s'est trop, trop bien passé. C'était vraiment génial. Genre, il y avait beaucoup plus de monde que prévu. C'était trop, trop bien. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon. Je sais pourquoi je l'ai fait.
Allez, j'ai compris. Merci à tous.
Mais grave, c'était vraiment génial.
Go saison 3, maintenant.
Ouais, non.
Je sors ma caméra, tout le monde parle.
Mais franchement, ça a fait du bien, quoi.
Ouais. C'est là que tu vois genre le conflit aussi de génération.
Ouais, exactement, vraiment.
C'est incroyable.
Mais c'est réellement ça, enfin, ouais, je pourrais en parler des heures et des heures, c'est incroyable. Il y a tellement de manières de justifier son islamophobie, en fait, parce que... Enfin, c'est vraiment
on
ça.
On va d'ailleurs tous les lister dans un épisode spécial.
Mais tu sais que...
Justifier votre islamophobie avec Quentin et Alice. L'enfer.
Non, mais il y a matière, parce qu'en fait, on parle des musulmans tout le temps, en réalité, genre, on en parle tout le temps à la télé, on en parle tout le temps dans les médias, enfin, quand il n'y a pas de coronavirus, bah, il y a l'islam, quoi. Du coup, tout le monde se sent légitime en fait pour parler d'islam, mais personne connaît.
Ouais.
Enfin, je trouve que c'est incroyable. Et genre, bah, moi, du coup, je suis musulmane, donc forcément, ça me saoule en fait. Mais écoute. C'est des femmes peut-être, écoute-les, non?
Alors donc comme t'en as parlé, tu viens juste de créer un nouveau projet qui s'appelle Récits d'Algérie. Pourquoi t'as créé ce projet et qu'est-ce qu'on peut y retrouver?
Ouais, alors en gros Récits d'Algérie c'est une plateforme qui vise à récolter les mémoires en fait françaises et algériennes au sujet de la guerre d'Algérie. Et donc c'est une plateforme vraiment collaborative, genre chacun peut s'exprimer et intergénérationnelle parce que il y a vraiment toutes les générations qui contribuent. Genre du coup il y a des témoignages, forcément ceux qui ont vécu là ces événements ils sont vieux et et donc de cette ancienne génération, et il y a aussi des écrits, des travaux en fait de notre génération qui est plus jeune. Et pourquoi j'ai créé ce projet? Parce qu'en fait c'est des mémoires qui sont occultées, qui sont bafouées. C'est la guerre d'Algérie, on n'en parle jamais. Le devoir de mémoire il a jamais été fait malheureusement. En fait moi j'ai découvert un peu les réalités de la guerre d'Algérie à l'âge de 19 ans, alors que je suis franco-algérienne. En fait j'ai pris une claque à 19 ans quoi. Genre quand j'ai découvert ça, c'est ma mère qui m'a raconté que son oncle a été tué par des soldats français pendant la guerre d'Algérie. Et moi, on m'en avait jamais parlé, genre, dans ma vie. Enfin, vraiment, que ce soit ma vie familiale ou ma vie d'étudiante, genre.
Ouais.
Chez moi, on n'en parle pas. Genre, mon grand-père, il a vécu ces événements, il n'en parle jamais. Il y a un silence, et va savoir ce que ce silence peut cacher. Et à l'école, on n'en parle pas non plus. Donc pour moi, l'Algérie, ouais, c'est un pays africain. Donc pour moi, l'Afrique a été colonisée. Donc voilà, je me suis jamais posé de questions, en fait. C'était normal, entre guillemets. Mais quand j'ai commencé à découvrir un peu que l'Algérie et la France, elles ont une histoire commune récente, c'est une histoire qu'on ne dit pas, malheureusement. J'ai cherché à me documenter, et je trouvais pas de témoignages directs. Je tombais que sur des revues, sur des sources un peu scientifiques, qui fait qu'en fait, je prends la distance avec les événements, genre c'est des faits, c'est des chiffres, mais c'est pas des gens, genre c'est pas des humains, je sais pas comment dire.
Ouais.
Et en fait, il y a quand même des témoignages et tout, quand tu cherches, hein, y en a. Il y a pas de... En fait, il y a rien qui centralise tout, genre vraiment. Et pourtant, enfin, pour les autres trucs, enfin, genre, je sais pas, enfin, un truc, c'est pas le terme. Non, mais par exemple, pour la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on l'a vachement étudié.
Ouais.
Il y a plein de sites qui te centralisent tout, il y a plein de projets dessus. Fin. Et en fait, il n'y a rien sur la guerre d'Algérie, je vous jure, c'est un truc de ouf. Qui a fait un vrai travail d'archivage. Il y a des associations qui font et tout, mais moi, j'ai jamais trouvé en fait cette démarche-là qui vise à vraiment récolter les mémoires, à faire collaborer les générations et qui essaye vraiment de les transmettre en fait. Et moi, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment les transmettre parce que c'est trop important et c'est hyper récent, on se rend pas compte.
Ouais, mais non, mais grave.
Et ouais, en fait, quand tu demandes aux gens, même au niveau de la sémantique qu'on utilise, elle est révélatrice. Genre, quand on parle de la dernière guerre, on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle pas de la guerre d'Algérie.
C'est vrai.
Et c'est révélateur en fait. Du fait que, voilà, le devoir de mémoire, on veut pas le faire tout de suite en tout cas. Mais je pense qu'il est temps.
Tu as bien raison.
Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est un projet important parce que ça me permet de comprendre, toujours, c'est la notion d'identité en fait. Enfin, tu sais, c'est ouf, mais genre, moi, je résulte directement du passé colonial français, genre.
Ouais.
Et cette histoire-là, je ne l'ai jamais apprise. Et j'ai besoin de l'apprendre, en fait. J'ai besoin de m'approprier un peu l'histoire. Et il y a vraiment une face cachée, en tout cas, qu'on n'apprend pas à l'école. Et moi, j'aime bien cette idée d'apprendre l'histoire à travers ceux qui l'ont vécu. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant des livres d'histoire où, en fait, tu parles de faits. En fait, on parle d'humains. Et malheureusement, on parle très peu des anciens colonisés, on parle jamais des indigènes. On les déshumanise un peu, quoi.
Ouais.
Et je trouve ça important de récolter leur témoignage. Enfin, moi, ça m'anime, vraiment.
Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a toujours dit en cours d'histoire, tu sais, genre, tu parles de la Seconde Guerre mondiale, tu avances un peu plus dans l'histoire, et là, on te dit, ouais, là, il y a eu la guerre d'Algérie, après, on est revenu en France, et là, tu fais la suite, tu vois. Et personne t'a jamais expliqué c'est quoi la guerre d'Algérie. Tu sais que ça a eu lieu, tu sais que c'est là, tu sais que ça a été, mais... Tu sais rien d'autre.
Ouais, c'est exactement
ça. Parce qu'il y a les gens honte.
Oui, c'est ça. Mais tu vois, autant sur les autres guerres, tu vois, tu sais très bien qui est coupable, qui a fait quoi, qui est le méchant, qui est le gentil. Autant en guerre d'Algérie, tu sais même pas genre quels acteurs réellement ont pris part. Et tu sais même pas comment ça s'est déroulé.
Oui, parce qu'ils veulent pas avouer qui sont les méchants, forcément.
Ouais, enfin, bah ouais, la France, elle a vraiment les mains sales. Hein.
Ouais, de ouf.
Vraiment, enfin, en tant que Français, on a du sang sur les mains, c'est incroyable.
Ah bah oui.
Et ouais, je découvre, des horreurs, quoi. Genre, qui ont été commis au nom de la France. Et encore une fois, c'est récent. Donc, je peux comprendre qu'on évite d'en parler, mais en même temps, c'est choquant.
Ouais, oui.
C'est réellement choquant. Parce qu'en fait, ce qui m'attriste vraiment, hein, c'est que la génération, elle est en train de partir. Et donc, ça veut dire que si on les récolte pas maintenant, on les aura jamais, les mémoires.
C'est vrai.
Genre, c'est les derniers instants. Vraiment, je pense qu'on a plus que, je sais pas, 5-10 ans max pour les récolter. Parce que même là, les vieux que moi j'essaye de contacter, en tout cas, enfin, ils sont pas en bonne santé. Hein. La plupart, ils sont très affaiblis. Donc ça va beaucoup être aussi les personnes qui étaient enfants à ce moment-là et tout, mais des personnes qui l'ont vécu en tant que combattant et tout. Bah c'est triste, oui, mais ils sont en train de...
Moins en moins,
ouais, c'est ça. Et les personnes, elles partent, et les mémoires, elles partent avec eux, en fait. Donc l'histoire, elle part avec eux, malheureusement.
Putain, c'est dommage. En plus, avec le corona, là, ils vont disparaître. Hein.
Vas-y, toi.
Ah, le mauvais timing.
Mais du coup, ouais, c'est un triste constat et c'est ce qui fait que c'est un projet qui est urgent. Enfin, en tout cas,
c'est un projet qui est urgent et qui est très important.
Ouais, vraiment.
Et qui est nécessaire.
Pour moi, nécessaire.
C'est un devoir citoyen, quoi. C'est la sauvegarde de la mémoire collective. C'est vraiment ça. Et c'est autant l'histoire algérienne que l'histoire française. Les deux sont liés.
Quand bien même, c'est pas très glorieux pour la France. Ouais. C'est quand même l'histoire.
De ouf. La France, elle a colonisé l'Algérie pendant 132 ans. Ça, je l'ai découvert à 19 ans. Genre, tu te prends 132 ans dans la gueule.
Ouais.
Honnêtement, c'est incroyable. Genre, tu dis, ah ouais, c'est pour ça que je suis ici. Enfin, c'est ouf quand même.
D'où Farah, d'accord, j'ai compris.
Donc, ouais, c'est assez incroyable.
Et encore une fois, moi, je suis abasourdi par ta capacité à te dire, il manque ça, donc je vais le faire. Enfin, vraiment, pour moi, c'est étranger ce concept-là.
C'est vrai.
Il manque quelque chose, donc je vais le faire. Moi, je dis, il manque quelque chose, qui va le faire?
Je suis mort.
Qu'on me l'apporte sur un plateau.
Bah ouais, en fait, je vois que j'ai besoin d'un truc et il y est pas. Bah écoute, je vais le faire moi-même.
Bah écoute, on n'est jamais mieux servi que par Farah. C'est ce qu'on dit toujours.
Je suis mort. Mais ouais, du coup, je passe mon temps libre à faire ça.
Justement, tu gères Girlhood, tu gères Double ID, tu gères les expositions qui tournent mal, tu gères Récits d'Algérie et ton master en droit. Comment tu fais? Comment une Farah fait tout ça?
Bah en vrai, franchement, je sais pas, c'est... C'est un besoin, en fait, en vrai. Genre, c'est des projets, j'ai besoin de les faire. Du coup, je me pose même pas de questions, quoi.
À quelle heure tu dors, genre? En termes de management de ton temps, comment tu t'y retrouves?
Ouais, faut être grave organisé, par contre.
Bah
déjà, je vais pas en amphi.
Ah!
Non, en vrai, je vais que aux amphis principaux. Mais je sais pas, je pense que j'ai une grosse capacité de travail, en vrai, ça aide.
Ouais, bah j'imagine, ouais. Parce que vraiment, un podcast et un master en alternance, moi, tu me perds.
Il faut connaître ses priorités. Et en fait, c'est une vraie passion. Genre, ce que je fais en dehors des cours, c'est vraiment... C'est des vraies passions. Genre, c'est... En plus de ça, c'est nécessaire. Donc, je me dis, faut le faire. Et du coup, je me débrouille. Genre, c'est vraiment ça. Je me débrouille. Je m'organise. Je me couche plus tard. Mais le temps presse, en fait. C'est un peu ça, tu vois. En tout cas, pour essayer d'Algérie, le temps presse.
Ouais.
Après, le reste, c'est vraiment que j'y kiffe. Hein. Vraiment, je kiffe.
De l'amour.
Et justement, tu parles de passion, mais est-ce que tu penses ou pas à en faire quelque chose de professionnel après tes études, ou tu veux juste garder ça en hobby?
Bah en vrai, j'aimerais bien. J'aimerais trop même. Mais je pense que j'ai un peu de mal à me projeter. J'ai beaucoup de mal à me projeter. En fait, je me dis pas le projet il va devenir ça, ou le projet j'ai envie d'en faire ça. Enfin... Si, en vrai, de ouf, je suis folle, moi. Non, mais en fait, genre, je vis trop le truc dans l'instant, mais j'avoue, j'ai des objectifs, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que... Enfin, je pense que j'ai grandi comme ça, genre, en mode, il y a les passions et il y a le travail. Genre, j'ai toujours grandi comme ça, genre, en mode... Comme si travail et passion, ça pouvait pas être lié.
Genre, c'est bien, tu t'amuses là, mais par contre, faut que tu récoltes de l'argent à côté.
Exactement, genre, c'est vraiment ça. Et je pense que j'ai encore du mal à me dire que c'est possible de vivre de sa passion.
Ouais.
Parce que ouais, je suis formatée à pas penser comme ça, quoi. Et donc, ce qui fait que j'ai aussi peur d'envisager les deux, enfin, de combiner les deux. Ce qui fait que je me retrouve en droit. On va savoir. je sais pas, mais peut-être qu'un jour, enfin, hein, moi j'adorerais. Enfin, si tu me dis, tu fais récit d'Algérie et t'es payé, waouh, mais là tu changes ma vie. Non, là franchement, tu. Ah ouais, non, grave.
Prends mon rib.
Non, tu me dis, c'est tu parti. Vas filmer des gens et t'es payé, mais vas-y, c'est. En fait, ça me paraît presque être une blague, tu vois. Genre,
ouais.
Ça, en mode, genre, c'est possible, donc je sais pas.
Tu attends les offres, avis aux annonceurs.
Ouais, voilà, il y a des producteurs. Non, en vrai, ouais, c'est une bonne question. Bah, pour l'instant, je sais pas, j'arrive même pas à l'envisager, quoi.
Et ben, on viendra vers toi quand t'auras la réponse.
Je vous tiens au courant.
Affaire à suivre.
To be continued. Alors, Farah, on te remercie pour toutes ces belles informations sur tes projets que vous pouvez retrouver sur notre Instagram d'ailleurs et qu'on vous indiquera en conclusion. Mais n'oublions pas qu'on est dans un épisode intégralement pas filmé. Et qui dit intégralement pas filmé dit, est-ce qu'on n'irait pas sur une petite toile ?
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !
Du coup, qui dit épisode spécial dit toile spéciale. Et on va demander à Farah, quelle est ta toile préférée ? Au final.
Alors j'ai un film à recommander, ce serait Old Boy. Je sais pas si vous le connaissez. En gros, c'est un film coréen et je me dis que c'est le moment de le voir si on le connaît pas parce que bah Parasite a cartonné. Ouais.
Tu veux dire qu'il a crevé l'écran ou quoi?
Ouais, voilà, exactement. Parasite a vraiment cartonné à Cannes, aux Golden Globes, genre même aux Oscars. Du coup, ouais, moi ça m'a rappelé Old Boy. Enfin, du coup, juste parce que c'est un film coréen et que je kiffe. et je pense que même là, en période de confinement, genre ça retourne tellement le cerveau que. En fait, c'est un film, genre, il te prend tellement que pendant 3 jours, 4 jours, tu y penses. Même plus.
Ah ouais, chaud.
Je sais pas si t'as pas fait ça, Quentin.
Bah, pas 4 jours. Peut-être un jour et une nuit, mais pas 4 jours.
Ah, moi, j'ai mis tellement de temps à m'en remettre et j'en pouvais plus.
Mais t'as trouvé le temps.
J'étais comme, ouf.
Farah, si tu perds 4 jours dans ta semaine, il n'y a plus de projet.
Mais du coup, ça parle de quoi?
Du coup, Hot Boy, ça parle de... Et Quentin, tu me corriges si j'ai tort. Hein,
bien
si
sûr, mais tu n'auras pas tort.
En gros, Old Boy, c'est l'histoire d'un gars qui est emprisonné. Il passe des années dans une chambre et en fait, il essaye de reconstruire son histoire. Genre, pourquoi est-ce qu'il est là ? Qui l'a emprisonné ? Et franchement, je peux pas en dire plus.
Parce que sinon, c'est divulgaché.
Enfin, faut le regarder
vous
vraiment.
Vous n'aurez rien. Ne demandez pas, vous n'aurez non, rien. Mais...
Elle est claquée comme recommandation ou quoi ?
Non, bah non, pas du tout. Le film se porte pas à plus de... De révélation, quoi. C'est le problème.
Ouais, je peux pas... Franchement, je peux pas expliquer plus, hein.
Bah, du coup, moi, ça m'intrigue, donc ça me donne grave envie de le voir.
Ah bah, tant mieux. Enfin, faut le regarder, en fait. Parce que si je dis plus, je spoil. Je peux pas ?
Non, on ne spoil
j'ai
pas.
J'ai des principes.
Intégralement filmé, on peut pas spoiler. On est coupé au montage, sinon. Non, mais effectivement, c'est un peu un... Je dirais un thriller, tu vois. Dans le sens où il y a plein de mystères dans ce film. Mais ouais, c'est une pépite du ciné coréen. Tu vois, genre Parasite... Ça a montré le cinéma coréen à tout le monde, comme l'a dit Farah. Il est temps de s'y intéresser. Et ce film-là, pour rentrer dans le cinéma coréen sans être trop loin de nos standards occidentaux, c'est parfait.
T'as tellement bien expliqué ce que j'avais en tête.
Ah, c'est mon travail, oui. Farah.
Du coup, ouais, bah, n'hésitez pas à aller regarder Old Boy, qui est une pépite du cinéma coréen.
Du coup, à ce que je sache, il n'est pas disponible sur Netflix, mais bande de petits voyous, je suis sûr que vous trouverez un moyen de vous l'approprier. Et après cette petite parenthèse cinéma, je vous propose qu'on passe à une petite parenthèse musicale avec la playlist de Farah cette fois.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Alors du coup, ouais, vous m'avez demandé de choisir un album. Et franchement, le choix, il a été facile parce que Soul King, il vient de sortir son album Vintage. Et je fais que de l'écouter là, en plein confinement. Du coup, je sais pas si vous écoutez Soul King, vous ?
Nope.
Non plus.
En gros, ouais, donc Soul King, bah, c'est un chanteur algérien en France et je le kiffe parce qu'en plus il a fait un featuring avec une chanteuse albanaise. Donc, moi je suis française d'origine algérienne albanaise, j'étais en plein kiff.
Cette musique était pour toi.
Première fois que je me suis sentie représentée musicalement, j'en pouvais plus. J'étais comme une ouf.
Est-ce que tu sautais au plafond ?
En plus, c'était trop bien. Presque, franchement, presque. Et du coup, ouais, bah, là le dernier album de Soul King, bah, il est trop trop bien. Il y a un featuring avec un chanteur algérien, genre un chanteur de raï algérien, plus de la génération de nos parents, qui ouais. S'appelle Cheb Mami.
Ah oui, ça on connaît.
Je kiffe, genre ça faisait un an que j'attendais le son, donc j'en pouvais plus. Il y a des featuring avec SCH, 13 Block, Jul, je sais pas si vous aimez bien Jul, mais...
Alors, on vit sur la canebière, donc c'est vraiment notre référence. Hein.
Bon bah tant mieux. Voilà, je recommanderais l'album de Soul King parce que voilà, il rend ce confinement un peu plus sympa. Puis ramène du soleil.
Et pour le coup, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc plus simple à trouver. Et vous avez le temps, vu que vous êtes en confinement.
Le télétravail, franchement, avec du petit Soul King dans les oreilles, je pense que ça passe extrêmement crème.
Bah écoute, je pense que c'est une fin d'enregistrement.
C'est toujours triste.
C'est une fin d'interview. Ça nous brise le cœur, mais en tout cas, enfin, je pense que je parle pour Quentin aussi en disant que c'était un réel plaisir, Farah.
Un délice.
Ah bah super, ça me fait plaisir aussi.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu.
Merci à vous pour l'invitation.
Surtout qu'on sait à quel point ça peut être bizarre et gênant.
Tous nos invités ont d'ailleurs lancé une association. Ils font des groupes de parole.
Mais ouais, vraiment, merci beaucoup parce que c'était super intéressant. Et je n'en doute pas que ça intéressera quiconque écoutera ce podcast. J'espère beaucoup.
Bah, merci à vous, c'était un réel plaisir, ouais.
Arrête, on va rougir.
Oh là là.
C'est pas vrai. Ouais, non, mais c'était un énorme plaisir. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Et surtout, continue ce que tu fais. C'est nécessaire.
Ouais, merci beaucoup, ça motive.
Et merci pour ton temps, parce qu'on a vu dans cette interview que tu étais très occupée comme femme. Donc, ça fait vraiment plaisir. On se sent privilégié quand on a un peu de ton temps.
Ça va, on est en confinement.
Et maintenant vient le moment le plus important. C'est le moment où tu nous dis où on peut te retrouver, toi et tes projets sur les réseaux sociaux.
Du coup, bah, vous pouvez me retrouver surtout sur Instagram. C'est @farahblgblg. Je peux pas expliquer le pourquoi du comment.
Belgos, belgos, ça.
Non, c'est même pas ça. Ça me gêne à chaque fois, tout le monde croit que c'est ça. Mais bon, si j'explique, c'est pire, donc j'expliquerai pas. non, je rigole. Et donc, ouais, donc FarahBLGBLG sur Instagram. Girlhood qui est disponible sur le média Vraie Meuf, donc disponible sur Instagram aussi et sur leur site. Le projet Double ID qui est disponible sur la page Instagram Plume Banlieue. Il y a beaucoup de contenu dessus, c'est trop. Enfin, je recommande la page même en général. Et Récit d'Algérie qui est disponible. Il y a un site web, il y a un compte Twitter, il y a un compte Insta que j'alimente pas mal. Il y a même une page Facebook. Donc,
elle est partout.
C'est un très jeune projet et je vous recommande de le suivre pour l'histoire et la culture.
Évidemment, allez suivre ça en masse. Encore une fois, merci Farah.
Bah, merci à vous pour votre professionnalisme.
Oh bah, c'est vraiment le compliment le moins possible du monde.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu à toutes et à tous, autant que ça nous a plu à nous de le faire et d'écouter Farah nous raconter toutes ces belles choses.
C'était un délice.
C'était passionnant, vraiment, on le dit sans aucun humour, 100% honnête, c'était super chouette de lui parler.
Pour une fois, c'est très premier degré, excellent. Et tout ce qui est fait est excellent, allez le voir, Fissa.
Et puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que on en a parlé après avoir arrêté l'enregistrement, c'est que ça faisait vraiment conversation entre potes. Du coup, on a pu parler de pas mal de choses intéressantes, enfin qu'on n'avait même pas prévu au début. Donc c'était très très chouette, très bonne expérience. Et du coup, j'espère qu'on va garder ce format-là, parce que moi, ça m'a bien plu.
Moi aussi, on va le refaire.
Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Donc, vous pouvez nous le dire dans les commentaires sur Apple Podcast, puisque nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast et plein d'autres. Vous pouvez aussi nous contacter par notre adresse Gmail, par exemple, qui est intégralementpasfilmé@gmail.com. Vous pouvez, quoi encore, nous contacter par notre compte Instagram, @intégralementpasfilmé. Vous pouvez nous envoyer un petit message privé. On vous répondra avec beaucoup de tendresse et d'humour. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sous nos posts. Bref, nous sommes extrêmement joignables, nous sommes extrêmement à l'écoute et nous avons hâte de savoir ce que vous avez à nous dire. Aussi, si jamais vous avez des petites recos ou vous connaissez, je sais pas, quelqu'un de votre entourage qui fait des projets assez cool, vous pensez qu'il mérite une petite interview, comme Farah, et ben contactez-nous, ce sera avec très très grand plaisir. Comme on l'a dit à la toute fin, mais on le répète encore, tous les projets de Farah seront en description de ce podcast et sur notre post Instagram, on les mettra tous. On les mettra dans la story, enfin bref, allez la suivre, allez lui donner votre feedback. Dites-lui que ce qu'elle fait, c'est important parce que c'est vrai et que bah on a besoin de beaucoup de gens comme elle, je pense.
Et surtout, donnez-lui ce qu'on appelle la force.
Par exemple. Donc voilà, vu qu'on préenregistre cet épisode, ben j'espère qu'on sera pas en confinement, mais je pense que si. Donc si on est encore en confinement, bon courage à tous, hein, ça fait longtemps qu'on y est, on s'accroche.
On voit le bout du tunnel.
Mais c'est nécessaire, il faut le faire, il faut rester chez soi, il faut aider le personnel médical. Et puis si on ne l'est pas, bah tant mieux, allons boire un verre.
Allez.
Donc voilà, c'est tout pour la saison 2 d'IPF. On se retrouve très prochainement pour une troisième saison toujours plus fort. On dirait la fin de Fort Boyard, c'était
toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Donc voilà, portez-vous bien. Et surtout, Quentin.
Et surtout, gardez la pêche. Ciao.
Va